auditrices, auditeurs de Fréquence Mistral, bienvenue à toutes et à tous. Comme je vous l'annonçais ce matin, il est l'heure de retrouver votre nouveau rendez-vous. Et c'est le deuxième chapitre déjà, car ils ont déjà donné une émission chez nos confrères de la RAM. Une émission que vous retrouverez en partage prochainement chez nos collègues. Partage d'idées avec l'UDES 05. Bonjour à tous.
Bonjour.
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 Alors, présentez-vous, il y a du monde dans les studios de Fréquence Mistral, c'est bien tout ça. Honneur aux dames.
Bonjour à tous, donc Claire Denisot, je suis en service civique à l'UDES 05 depuis maintenant un an.
Jean-Joël Frézy, chargé de mission à l'UDES.
Je suis le pro, je représente l'association Serre Lézard.
Et Jean-Claude Hérault, je suis le président de l'UDES 05.
Jean-Claude Hérault qui est un habitué de Fréquence Mistral. Alors ce qui vous amène aujourd'hui c'est une thématique particulière car à chaque émission, une thématique, de quoi s'agit-il aujourd'hui Jean-Joël?
Et bien du coup pour cette deuxième édition d'Entreprendre Autrement nous avons choisi la culture. Donc la culture, une thématique un peu spécifique, la culture dont Richard Hogarth disait qu'elle est une arme de destruction massive. Une arme, le mot étant peut-être un peu ambigu, et pourtant, combien il nous paraît pertinent lorsque nous constatons amer l'absence de culture, le manque de culture qui peut conduire à la barbarie. Une arme donc pour lutter contre les préjugés, les idées préconçues, l'obscurantisme. Une arme mais aussi un outil de construction massive. Dans cette émission, nous parlerons donc art, culture et économie sociale et solidaire, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et évidemment un enjeu d'actualité. La culture n'est pas un luxe, mais bien une nécessité. Selon Edgar Morin, elle est ce qui relie les savoirs et les féconde. Pour Georges Duhamel, la culture est ce qui fait d'une journée de travail une journée de vie. Des maximes qui ne me contredira pas notre invité, j'en suis sûr. Un invité cultivé, mais aussi cultivateur, le chargé de développement culturel de l'association Serre Lézard, située dans le sud des Hautes-Alpes, et qui assure le développement et la diffusion de l'art dans les territoires. Jules Pro, bienvenue. Et du coup, Jules Pro, comment on devient chargé de développement culturel à Serres, dans les Hautes-Alpes?
C'est une bonne question, Jean-Joël. Je te remercie de m'inviter au sujet de cette émission pour en parler. C'est simple, un parcours en gestion de projets culturels. J'ai commencé à travailler pour la région et encore pour le ministère de la Culture du Québec. Sur vraiment des missions d'élaboration d'action, où il fallait penser des philosophies d'action, écrire des guides pour des guides d'aide à la décision pour les décideurs. Et donc j'avais envie de travailler pour les opérateurs et de concrétiser les actions. Donc voilà, Serre Lézard, les Hautes-Alpes, c'était parfait pour moi.
Très bien, dans le concret. Et Serre Lézard, pour nous en dire peut-être deux mots, en tout cas enfin, pour bien faire comprendre de quoi s'agit-il?
Alors c'est une association qui a plus de 10 ans d'existence, qui est vraiment axé sur le développement et la diffusion de l'art contemporain et de l'art plastique dans les territoires alpins. Donc on travaille dans le 05, mais aussi dans le 04, on travaille aussi un peu en Drôme, on descend jusqu'à Manosque. Donc on est vraiment sur plusieurs territoires. Et on est articulé sur trois grands projets. Le projet premier, c'est l'exposition d'art contemporain. On transforme le village de Serres, donc au sud des Hautes-Alpes, en grande galerie à ciel ouvert avec 25 artistes qui investissent 25 lieux d'exposition. Donc on transforme le village, on transforme la ville de Serres, pardon. On a le deuxième projet, ce sont les ateliers d'art ambulant. Donc là, ce sont les ateliers de sensibilisation à l'art plastique par la pratique qui sont encadrés par des intervenants artistes reconnus. Par exemple, Paul Richet, l'une de nos intervenantes, récemment exposée au musée d'art décoratif de Paris, pardon. Donc on travaille en transversalité avec les hôpitaux, on travaille aussi la maison d'arrêt de Gap, donc voilà, on travaille dans beaucoup de milieux différents avec une diversité de publics. Et le troisième projet, donc, c'est celui qui est en élaboration, le café Espace Multiculturel, le CEM, qui a pour but de rassembler les acteurs culturels du Buech et du Serrois autour d'une offre multiculturelle commune et transversale.
Ouais, alors ce café culturel sur lequel on reviendra au cours de l'émission. Notre thématique, la culture a un moteur de la société, mais un moteur un peu, alors nous on pensait au terme mal aimé, mais peut-être aussi au terme un peu méconnu, un rapport ambivalent avec la société, Claire peut-être
En effet, c'est vrai que la culture c'est souvent mal perçu et considéré par l'opinion publique comme un secteur qui coûte cher mais qui rapporte peu. Et pourtant, un rapport récent a été élaboré entre le ministère de l'économie et le ministère de la culture. Ce rapport, qui nous montre que le secteur culturel participe à 3,2% du PIB, soit 7% de plus que le secteur de l'automobile, par exemple. Et la culture en chiffre aussi, c'est 670 000 emplois directs et 870 000 emplois indirects. Donc finalement, un secteur qui représente quand même beaucoup. Est-ce que vous êtes étonné peut-être par ces chiffres, Jules ?
Non, du tout, non. Je reviens à ton discours introductif, Jean-Joël, sur justement la culture mise en avant comme arme de destruction massive. Il faut savoir que l'Italie vient de doubler son budget culturel, justement dans une optique de vivre ensemble et vraiment de lutte contre le terrorisme. Donc voilà, effectivement, la culture est utile, elle représente un point économique non négligeable sur le pays. Si on regarde par rapport aux expositions d'art contemporain de Serres-Lézard sur Serres, c'est un événement qui a lieu le troisième week-end de septembre, qui ramène près de 2000 visiteurs par an. Donc on double pratiquement la population de Serres, qui est de près de 1500 habitants. Et donc forcément, quand vous faites venir autant de gens dans une ville, il y a des retombées économiques, le chiffre d'affaires des commerçants, les nuitées des hôteliers. Donc tout ça forcément a un impact et j'ai envie de dire communique avec le développement économique du territoire.
Jean-Claude, un petit mot aussi sur ces chiffres.
Simplement dire que je pense que les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont bien compris ces enjeux. Parce que trop souvent, on a les acteurs culturels d'un côté et puis les acteurs de l'économie sociale et solidaire de l'autre. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une rencontre entre les deux. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que l'année dernière, dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, il y a un colloque qui avait été organisé à Arcade, PACA, à Aix-en-Provence. Et le thème, c'était « Culture et économie sociale et solidaire, mobilisez-vous, ça bouge ». Et je pense que notre union départementale, dans l'année 2016, a parmi son plan d'action, ses objectifs, c'est de développer ce rapprochement. Et l'émission aujourd'hui, c'est bien à l'image de ce qu'on veut faire, parce qu'il faut absolument qu'il y ait des acteurs culturels qui s'impliquent dans la vie de l'Union départementale de l'économie sociale et solidaire, parce que notre objectif, c'est vraiment rassembler tous les acteurs économiques, les acteurs associatifs, la mutualité, les acteurs culturels. Donc là, on a un enjeu majeur. Et c'est vrai que dans une période aussi trouble que nous vivons actuellement, la culture a vraiment toute sa place. Et c'est à nous, l'économie sociale et solidaire, d'être à la pointe du progrès là-dessus.
Alors, comme dans chacune de nos émissions, on propose de commencer par quelques petites infos utiles sur l'économie sociale et solidaire au niveau local, mais pas uniquement. Donc je laisse la parole à Claire.
Merci. Alors, la DSCB, la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations et la communauté de communes du Guyès 3 proposent un temps d'information et d'écriture des missions services civiques au RSP de Guyès le mercredi 24 février à 18h. Si vous voulez y participer, pensez à vous inscrire auprès de la DSCB avant.
Oui, l'occasion aussi de rappeler que le service civique est un dispositif créé il y a 5 ans qui a déjà permis à 85 000 jeunes de s'investir dans des missions d'intérêt général et Claire en est un témoignage assez flagrant. Aujourd'hui, le gouvernement souhaite rendre le service civique universel et il s'est fixé l'objectif d'avoir 170 000 jeunes volontaires par an.
Le labo de l'ESS lance un appel à initiative pour l'emploi. Si vous avez des initiatives, des actions ou des projets innovants en matière d'emploi, faites-les parvenir avant le 15 mars via le site du labo de l'ESS.
Oui, et là encore, pour rappel, l'emploi dans l'ESS, c'est pas rien, puisqu'au niveau national, on est à près de 12,7% de l'emploi privé, et que c'est le secteur qui crée le plus d'emplois dans le pays, et puis qu'au niveau départemental, c'est encore plus important que ça, puisque presque 20% de l'emploi privé est dans l'économie sociale et solidaire.
Passons au prochain rendez-vous de l'UDES. Donc la première permanence des IA au siège social de l'UDES 05 à Gap aura lieu le 29 février. Vous avez un projet et vous ignorez encore comment le financer dans sa globalité. IA peut vous aider dans cette démarche. Donc c'est une association spécialisée dans le financement solidaire qui a pour but de consolider les projets et emplois de l'ESS de la région PACA.
Pour pouvoir rencontrer IA ce jour-là, en tout cas n'hésitez pas à vous inscrire via notre site www.udes05.org.
Et les prochains premiers petits-déj 2016 de l'UDES se dérouleront les 2 et 3 mars à partir de 8h30 à Briançon et à Gap. Ils auront pour thème le DLA, le dispositif local d'accompagnement animé par l'association ADELA. Au cours de ces deux temps d'information, nous verrons le DLA pour qui, pourquoi et comment. Le DLA permet aux structures d'utilité sociale employeuses de bénéficier d'un accompagnement dans leur démarche de création, de consolidation et de développement de l'emploi.
Là encore, pour participer à ces temps d'échange, vous pouvez vous inscrire sur notre site.
Ensuite, une info qui a eu lieu hier. Plusieurs responsables de l'UDES 05 ont rencontré lundi 15 février, donc hier, la vice-présidente du conseil régional, Chantal Emehoud, en charge de l'économie, du tourisme et de la montagne. Jean-Claude, est-ce que vous voulez nous dire un petit mot sur cette rencontre ?
Oui, c'était une rencontre importante parce que d'abord, Chantal Emehoud est un acteur politique important puisqu'elle est aussi maire d'Embrun, mais elle est surtout deuxième vice-présidente du conseil régional. Et donc, nous avons été... comment dire, pas vraiment surpris, mais nous avons été reçus d'une façon fort agréable, où Mme Emehoud nous a fait comprendre d'entrée de jeu qu'elle soutiendrait l'économie sociale et solidaire, le monde associatif. Elle a c'est son expérience de maire d'Embrun, je pense, qui l'a amené à comprendre que le lien social passait par notamment le monde associatif. Et ce qui nous a un peu rassurés, c'est que l'antenne de Gap, qui semble-t-il, d'après certains propos qui avaient été portés par le président du conseil régional, qui était, pourrait être mis en difficulté, semblerait, de ce que nous a dit Mme Emehoud, c'est que cette antenne de Gap serait conservée à Gap. Alors on ne sait pas sous quelle forme encore, mais en tous les cas, il y aura une antenne à Gap du conseil régional pour les Hautes-Alpes. Et enfin, dans les informations qu'elle nous a données, une information extrêmement positive aussi, c'est qu'il semblerait que ce soit elle qui serait chargée, dans la nouvelle composition du conseil régional, poursuivre le secteur de l'économie sociale et solidaire. Parce que vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas de délégation ESS, comme dans la précédente mandature. Mais donc, ce serait Mme Emehoud qui porterait ce secteur-là, ce qui serait extrêmement positif pour tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire des Hautes-Alpes.
Voilà. Et puis pour finir, Claire.
Et donc pour finir, une dernière info qui ne nous concerne pas directement dans les Hautes-Alpes, mais qui fait polémique dans le monde de l'ESS. C'est le département du Haut-Rhin qui souhaite rendre le bénévolat obligatoire pour les bénéficiaires du RSA. Ainsi, pour qu'un bénéficiaire puisse percevoir son allocation, il devrait réaliser 7 heures de travail non rémunéré par semaine au sein d'une structure d'utilité sociale. Une mesure qui pose la question de la véritable nature du bénévolat dans notre société. Messieurs, est-ce que vous avez des réactions
Moi, comme réaction, je citerai la réaction de Martin Hirsch, qui est l'ancien haut-commissaire aux solidarités actives, qui a été, on peut dire, le père du RSA, et qui dit « Ce n'est pas plus légal que si l'on disait aux familles touchant des allocations familiales de se soumettre à une obligation de bénévolat. » Je pense que tout est dit. Je pense qu'en plus, le dispositif RSA est un dispositif national. Je ne vois pas comment, dans certains départements, on aurait une façon de faire, puis dans d'autres départements, une autre façon de faire, d'autant que ce dispositif répond à l'article L262-28 du Code d'action sociale, qui stipule que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de rechercher un emploi, d'entreprendre des démarches à la création de sa propre activité ou d'entreprendre des actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. Donc il n'y a rien dans ces obligations qui prévoit qu'il devrait faire un bénévolat obligatoire. Nous, on pense que le bénévolat doit rester une démarche volontaire et non pas une démarche obligatoire. Et c'est pour ça que je tenais à réagir sur ce dispositif qui est proposé par ce conseil départemental et qui me semble complètement à côté de la plaque, si je peux me permettre.
Jules, aussi une petite remarque, un petit commentaire sur cette information ?
Oui, je suis en accord avec ce que vient de dire Jean-Claude. Pour moi, le bénévolat, ça ne se décrète pas. Voilà, il y a des choses qui ne peuvent pas venir d'une décision politique comme ça. Ça doit rester une volonté et avant tout une volonté.
Très bien, et bien écoutez, on va poursuivre avec un tout petit peu de musique. Et voilà, on vient d'écouter en fait un extrait d'un album, vous allez voir, qui est un artiste local, Claire.
Effectivement, on vient d'écouter un extrait du nouvel album de The Words, un jeune compositeur de musique instrumentale électronique originaire de Gap, donc très local. Et pour découvrir The Words, rendez-vous sur le site de l'UDES où vous pourrez écouter son dernier album intitulé Second Chapter.
Et voilà, parce que même dans la musique, même dans la programmation, on est dans le local et dans la promotion des artistes.
Non, mais je savais pas que sur le site de l'UDES, on était de la musique.
Eh mais... Jean-Claude Hérault, Claire Denisot et Jules Pro, chargé de développement culturel à Serres-Lézard. Alors Jules, une des premières choses qu'on voulait aborder avec vous, c'est la question entre l'ESS et la culture. Mmh. Aujourd'hui, question peut-être un peu brutale, mais on a eu une réponse tout à l'heure, mais aujourd'hui, au quotidien, comment la culture, et notamment à Serres-Lézard, vous avez l'impression de générer de l'économie ou être dans l'économie ?
Ben oui, effectivement, c'est tout ce que je racontais sur l'attractivité peut générer à nos événements, le fait que, par exemple, pour les expositions d'art contemporain, près de 70% de notre public ne vient pas de Serres, mais vient des autres parties des Hautes-Alpes. Donc voilà, il y a une certaine attractivité, donc forcément des retombées économiques. Je dirais le lien avec l'économie se fait aussi par rapport à la gestion. Maintenant, les structures, les associations culturelles se doivent forcément d'être bien gérées. Voilà, avec sérieux et une part de professionnalisation finalement.
Ouais. Mais alors, une question qu'on s'était posée, nous, c'était aujourd'hui, on constate que beaucoup de compagnies sont sur le statut associatif. Ouais. Et donc, on a envie de demander, c'est par militantisme ou par simplicité ? Parce que tout le monde sait que c'est un statut très souple et très facile à acquérir.
Bah, les deux. Mais simplicité, maintenant, je pense que les choses sont de moins en moins simples. On est arrivé dans une complexité. Voilà, il faut que les associations, notamment dans la culture, s'inscrivent dans des actions type démocratisation culturelle, développement culturel, culture, économie. Même combat, disait Jacques Lang en discours de Mexico en 82. Donc voilà, il faut réussir à inscrire nos actions dans ces objectifs-là. Il faut évaluer nos. Enfin, il y a toute une phase de rationalisation finalement, donc qui complexifie complètement la vie des associations. On nous demande aussi d'être de plus en plus structuré, donc être professionnalisé, avoir des salariés, nous organiser en réseau. Donc tout ça finalement complexifie énormément la vie associative. Et pourtant, il ne faut pas perdre de vue le modèle, c'est que ce sont des bénévoles qui sont la base des associations, et les bénévoles y fonctionnent selon leur volonté, encore une fois, ça ne se décrète pas. Et que si jamais ils se retrouvent dans un environnement trop complexe où ils sentent qu'ils n'ont plus de prise sur leur activité, bah, ils vont faire quoi ? Ils vont partir. N'en déplaise au conseil général du Bas-Rhin, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc si jamais, enfin si on ne sait pas conjuguer ces deux mouvements-là, structuration, complexification et mobilisation du bénévolat, à mon avis, on met en danger le modèle associatif.
Alors, ESS comme réponse à des problématiques vécues par les acteurs culturels, pour nous, c'était un titre intéressant pour la suite, parce que dernièrement, nous avons reçu Smart chez nous. Claire, est-ce que tu veux nous en parler un peu ?
En effet, on vous en parlait lors de notre dernière émission. Nous avons évoqué un temps d'échange entre la société coopérative d'intérêt collectif Smart et plusieurs structures de l'ESS qui s'est déroulé le 26 janvier dernier au siège social de l'UDES 05. Et cette rencontre, en plus d'avoir permis de présenter la SIC à différents acteurs de l'ESS, elle nous a permis de faire émerger un travail en coopération entre Smart et l'UDES. Ainsi, une série de permanences de Smart auront lieu tous les derniers lundis de chaque mois dans les locaux de l'UDES. Et pour rappel, Smart développe un ensemble de services visant à faciliter la création d'activités et d'emplois dans le secteur culturel et artistique en France. Et ces services s'adressent donc aux musiciens, aux peintres, aux acteurs, aux sculpteurs, plus largement à toutes celles et ceux qui souhaitent vivre de leur art le temps d'une vie ou le temps d'un projet. Et donc la première permanence aura lieu lundi 29 février à partir de 11h à l'UDES 05. Si vous êtes intéressé, pensez à vous inscrire sur le site www.udes05.org. Jules, Jean-Claude, qu'est-ce que ça vous inspire, cette coopérative ?
Moi, j'étais un peu interrogatif avant de recevoir le responsable de Smart dans nos bureaux. Je me disais, qu'est-ce que c'est, ça, Smart, tout ça. Et je ne vous cache pas qu'à la présentation du site Internet, j'ai été complètement scotché, quoi. C'est-à-dire que là, il y a vraiment l'outil parfait qui répond à ce que disait Jules tout à l'heure. C'est-à-dire que à la complexification, à la nécessité d'être professionnel dans la gestion, eh bien, on répond par un outil qui est vraiment remarquable. Et moi, je voudrais dire à toutes celles et tous ceux qui animent des projets culturels de venir dans nos permanences, parce que on va leur présenter, les responsables de Smart vont leur présenter ce qu'ils font, et je peux vous assurer que c'est vraiment scotchant, quoi. C'est un outil qui est simple, qui est dynamique, qui est efficace, qui permet d'avoir une gestion partagée du personnel. Non. C'est vraiment quelque chose de... Et moi, je tiens à dire que ce travail en réseau avec Smart, c'est le résultat aussi de notre présence à la CRES, à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, puisque c'est dans le cadre de la CRES, du conseil d'administration de la CRES et de son assemblée générale, que nous avons rencontré les responsables de Smart et de l'association qui s'appelle... Les Têtes de l'Art, voilà. Et donc, on a pu, par cette démarche de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, avoir cette information, pouvoir la mettre à disposition des acteurs culturels du département. Donc vraiment, venez dans ces permanences, je pense que vous ne le regretterez pas.
Alors Jules, on vous a invité notamment pour parler d'un joli projet que vous allez peut-être nous présenter un peu plus en détail. Qu'est-ce que c'est le Café Espace Multiculturel ?
Alors Café Espace Multiculturel, c'est une ambition de rassembler les acteurs culturels du Serrois et d'offrir une offre multiculturelle donc sur le territoire de manière pérenne. Donc c'est un projet finalement de mutualisation. L'idée c'est voilà, qu'on se rassemble tous et qu'on puisse faire des projets commun, je dis bien projet commun, autour d'objectifs communs. Donc pas voilà, une simple accord sur les outils de communication, on marque nos logos, non, c'est vraiment sur les objectifs, c'est un partenariat intégré. Pour l'instant, c'est un projet qui est en voie de concrétisation, on a un financement par Fondation de France et le Conseil Général qui nous aide à lancer ce projet, qui voit maintenant, on va dire, trois leviers de développement pour 2016. Le premier, c'est la mise en place d'un comité de pilotage, qui rassemble différents acteurs, donc associatifs et structures commerciales qui sont partenaires dans ce projet, mais aussi voilà, différentes agences, différents techniciens locaux et bien sûr nos élus locaux qui vont nous aider à intégrer ce projet dans des enjeux de développement de territoire. Donc voilà, c'est un comité de pilotage qui a pour but de développer le projet et de créer finalement des objectifs communs. Le deuxième levier de développement, c'est la constitution d'un café avec un grand C culturel, donc qui sera au niveau du hangar qui est vraiment à l'entrée de Serres en direction de Vennes,
ouais.
Gap, qui est le premier lieu sur lequel vous tombez en arrivant sur Serres, et qui a pour but finalement, ce que je vous disais aussi un peu, c'est d'impulser ce café espace multiculturel auprès de nos adhérents, auprès de nos usagers, auprès de notre base. Parce qu'il ne faut pas que ce soit simplement un prétexte de regroupement entre différents représentants et différents techniciens. L'idée, c'est vraiment que ce soit impulsé au sein de notre base associative, que ça fasse sens, que ça soit ancré sur le territoire. C'est un projet de territoire. Et le troisième levier, là, concerne plus les projets qui existent déjà, qui sont déjà portés par les opérateurs du Serrois. C'est-à-dire d'être capable de faire la démonstration qu'on est capable de travailler ensemble sur des projets qui existent déjà. Par exemple, les prochaines expositions d'art contemporain organisées par Serres Les Arts, on a prévu, on est en train de prévoir des actions de médiation avec les amis de Serres qui sont dans la sauvegarde de la mise en valeur du patrimoine. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire la démonstration par les projets qui existent déjà.
Moi je trouve que c'est bien. Alors par rapport au Fourmilia par exemple, ce qui se fait sur Vennes, avec le Café du Peuple. Ouais. Est-ce que c'est un peu le même style
Alors non, le Formidiable, on travaille en intelligence avec eux. Ils nous conseillent énormément sur le développement de nos activités. On va dire que pour l'instant, le Café culturel doit être vu comme un outil de préfiguration, une boîte à idées finalement, où on va essayer de mélanger nos usagers, nos bénévoles pour qu'ils... Voilà, émergent de nouvelles idées et émergent des personnes en charge du développement de ces nouvelles idées. L'idée, c'est qu'il y ait une logique ascendante, finalement. Donc c'est vraiment un moyen pour développer le projet de SEM.
Et alors avec ce café culturel, on voit que c'est vraiment un regroupement de différents acteurs. Mmh. Est-ce que c'est facile de coopérer, de co-construire des projets comme ça avec différents acteurs et de les mettre tous autour de la table ?
Non.
Merci.
Non, c'est pas simple. Ça demande un travail de mobilisation, de conviction. L'idée, c'est quand même de créer une cohérence. Il faut que ce soit un collectif qui soit cohérent. Donc voilà, il faut composer avec des structures qui sont différentes. Donc il y a des structures associatives, il y a des structures commerciales, c'est pas pareil. Il y a aussi des individus qui sont différents. Donc voilà, on doit composer vraiment avec chacun et différentes structures.
Mais c'est la diversité qui fait la richesse, hein. Ah oui. Parce que une des caractéristiques quand même des acteurs culturels, c'est la diversité, comme la caractéristique de l'économie sociale et solidaire. Hein. C'est pas un bloc monolithique, c'est une diversité. Et moi, je suis convaincu que c'est cette diversité qui nous permettra de progresser, d'avancer. L'important, c'est qu'on reste bien sur nos valeurs et qu'on reste bien sur qu'est-ce qu'on veut faire dans nos territoires. C'est la proximité. L'économie sociale et solidaire égale proximité pour moi. C'est le travail transversal de terrain avec les acteurs du territoire.
Alors justement, en parlant de proximité, de myriades d'acteurs, on a pu constater, nous, dans nos recherches, et d'ailleurs je tiens à remercier Anne Expert, consultante, qui nous a un peu accompagnés dans ces recherches, mais on voulait mieux comprendre, et le sud du département, aujourd'hui, regroupe une myriade de compagnies et autres acteurs, on va dire éparpillés, sur un territoire très rural, peu habité. Est-ce qu'il y a des explications à cela? Pourquoi une telle vivacité culturelle dans un territoire aussi, finalement, aussi un peu... peu habité et aussi rural?
Je pense qu'il y a absence aussi de regroupement. Je ne parle pas pour le territoire de Veynes, mais je parle plus pour notre territoire, nous, sur Serre, qui est plutôt donc le Vent-le-Bouëche. Effectivement, il y a une diversité d'acteurs, mais il n'y a pas eu encore de logique de rassemblement. Je pense qu'aussi, il y a une volonté politique qui doit s'exprimer à cet endroit-là, très clairement, au niveau local. Donc la région, le département, on comprend bien leur logique là-dessus, mais la volonté politique locale ne s'est pas encore exprimée sur, on va dire, la culture dans le Bouëche.
Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est, puisque tout à l'heure vous parliez du formidable, est-ce qu'il y a quelque part, peut-être en France, ailleurs, dans le département, un modèle qui peut vous inspirer sur ce que vous êtes en train de créer avec ce café espace multiculturel?
Oui, Saint-Agile, qui est vraiment dans le Loiret, donc c'est un territoire très rural, et donc c'est des porteurs de projets qui ont réussi à travailler ensemble. En transversalité, donc il y a aussi la MJC qui est représentée, l'Office du tourisme, donc voilà, donc un projet de territoire, et ils ont réussi à impliquer leurs élus locaux. Donc voilà, c'est un projet qui a réussi. L'Échalier, j'invite les auditeurs à aller voir le site. L'Échalier. Sur Saint-Agile, voilà.
On voit bien quand même que, par rapport à cet exemple que je découvre, ça se passe aussi dans la ruralité, quoi. Donc c'est bien spécifique, cette démarche que vous avez, c'est bien spécifique à la ruralité aussi. Mmh. Et on est vraiment dans ce monde rural, et je pense que nous, notre travail de l'UDES, c'est de faire prévaloir auprès des décideurs du département, les représentants de l'État, les représentants politiques, faire prévaloir le fait que l'économie sociale et solidaire, c'est pas quelques bobos qui se réunissent dans leur coin pour faire je sais pas quoi de farfelu, mais c'est vraiment professionnel ce qu'on fait. C'est porteur de valeur ajoutée, c'est porteur de lien social, c'est une véritable activité économique créatrice d'emplois. Mmh. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire passer comme message. Et je reconnais que c'est pas toujours simple, parce que certaines personnes ont une image un peu déformée de l'économie sociale et solidaire, mais aujourd'hui on a des outils. Et l'outil principal, il me semble que c'est la loi cadre sur l'économie sociale et solidaire qui a été votée il y a quelques mois, voire quelques années bientôt. Il faut qu'on s'appuie sur cette loi cadre. Et il me semble que dans ce département des Hautes-Alpes, on a su créer depuis 2008, au travers de notre union départementale, une dynamique qui devrait nous permettre de continuer à fédérer tous ces acteurs et à être vraiment, à devenir des acteurs incontournables.
Ce lien avec l'ESS au sein de Serre-Lézard, vous essayez aussi de le mettre en pratique avec peut-être, je sais pas, des acteurs qui ne sont pas spécifiquement dans la culture et...
Bien sûr, on travaille dans le projet du SEM, il y a la MJC, donc voilà, quand même important. On travaille, On travaille aussi avec des acteurs qui n'ont pas forcément un objet culturel.
Tu parlais des amis de CERP.
Oui, le patrimoine, exactement.
Voilà. C'est le patrimoine.
Ouais, par exemple, le service pénitentiaire, on a vu qu'il y avait un article qui était paru.
Alors ça, c'est dans le cadre des ateliers d'ambulants. Effectivement, on travaille auprès donc, de la maison d'arrêt de Gap. On travaille aussi dans des hôpitaux. On travaille... dans les maisons de retraite, donc voilà, donc on est habitué à travailler dans des milieux différents et avec des publics différents, effectivement.
Merci Jules Pro. Du coup, on peut retrouver pas mal d'informations sur le site de Serre-Lézard.
Qui est en construction, hein, il sera complètement actualisé à partir de fin avril.
D'accord, bon, mais écoutez, à suivre.
Mais la page Facebook est actualisée, elle fonctionne très bien, donc j'invite tous les auditeurs, s'ils veulent s'informer sur l'association, à aller voir donc, la page Facebook de Serre-Lézard.
Ben on la relaiera sur notre site internet. Absolument. Merci beaucoup en tout cas à tous. On se retrouve pour une prochaine émission. Je vous rappelle que toutes les informations et notamment les références évoquées dans cette émission sont disponibles sur notre site www.udes05.org. À bientôt et bonne journée.
Merci à tous, bonne journée. Vous retrouverez cette émission en podcast si vous venez de la louper. Si vous avez écouté juste la fin, eh bien, d'ici quelques heures, elle sera en podcast sur le site de Fréquence Mistral, www.fréquencemistral.com, onglet Gap. À très vite pour une nouvelle émission d'Entreprendre Autrement, car c'est une émission destinée à être, on pourrait dire, itinérante. C'est plutôt de bon augure. À bientôt, très cher.
Merci à tous.